Le Crétois,
c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio,
ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit
pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
C'est toutes les semaines.
Et c'est maintenant.
Bonjour, bonjour à tous. Nous voici le 22 août pour la lecture, notre rendez-vous hebdomadaire de la lecture du Crétois du 21 août. Bonjour à tous. Nous allons sélectionner quelques articles pour votre plus grand plaisir à écouter. Et dans le studio, pour accompagner cette lecture, nous avons à la technique Sarah, à la lecture Thierry, Christine, Doris et moi-même Martine, pour vous faire part de cette belle actualité qui sera suivie par un épisode musical, plus toutes les petites annonces qui pourront peut-être vous permettre de vous tenir au courant de l'actualité locale. Alors, sans plus attendre, Christine, peut-être, t'as quelque chose à nous dire déjà.
Eh bien oui, cette année, les vendanges. Les vendanges sont précoces, mais prometteuses. Les vendanges ont démarré le 11 août dernier, un record. La qualité est là, malgré les chocs subis cet été. Jean-Denis Maillefaux, viticulteur sur Barsac, s'est levé fort tôt dans la nuit du 17 au 18 août. Pas de temps à perdre quand il s'agit de démarrer les vendanges. Un des jeunes qui conduit la machine qu'on se partage sur trois domaines a démarré sa tournée vers 3 ou 4 heures du matin, raconte le propriétaire du domaine Maillefaux, précisant ne plus vendanger ses parcelles qu'à la machine, excepté celles qui sont inaccessibles. Et de rigoler. De toute façon, personne ne veut vendanger. Avant, je recrutais 20 personnes. Cette année, j'ai eu 3 coups de fil. En contrebas, la machine s'active et force est de constater qu'elle est bien performante. Un rang, un autre et encore un autre et hop, le contenu est versé dans la benne sous les yeux des propriétaires récoltants, attentifs. Les vendanges d'autrefois, en septembre et avec tout plein de vendangeurs, paraissent décidément bien loin. Fabien Lombard, président du syndicat de la Clairette et qui vient de démarrer ses vendanges sur son domaine à Suze, a recours lui aussi à la machine. Pas question pour autant de se passer de vendangeur. Pour le crément de Die, la récolte doit se faire obligatoirement à la main. J'ai une équipe de 8 personnes, moitié étudiants et moitié retraités, qui travaillent de 8h à midi. La faute à une chaleur qui épuise les corps, mais pas seulement. Quand les grappes sont trop chaudes, il faut vite les refroidir. Sinon, ça s'oxyde très vite, précise Fabien Lombard. Franck Monge, propriété des caves Monge-Granon, récoltant sur 120 hectares d'Aubenasson jusqu'à Châtillon-en-Diois et Minglon, fait le point. La vigne ne craint pas la sécheresse ni les canicules. Les raisins peuvent craindre les coups de chaud, mais cette année, on a laissé pas mal de végétation à couvert pour protéger et ça a plutôt bien marché. L'absence de pluie a eu aussi ses bons côtés. On n'a traité que 3 fois dans la saison. C'est bien économiquement et pour l'environnement. Après, les grains restent petits, il n'y aura pas de gros volume. À ses côtés, Rémi Granon, œnologue et vigneron renchéri. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu une baie pourrie. La qualité est là, le problème c'est la quantité. Et puis avec le changement climatique, on fait face à quelque chose de nouveau, qu'on ne connaît pas encore trop. Et de prendre pour exemple le fait que la chaleur venant tôt, la vigne a poussé très vite, trop vite. Et il a fallu s'adapter pour pouvoir la tailler le plus vite possible.
Une bonne récolte. Tous ces aléas dessinent un vignoble en pleine mutation, avec cette année un millésime qui s'annonce certes prometteur, mais pas forcément synonyme des mêmes revenus pour tous. Franck Monge précise, sur le bas de la vallée de la Drôme, il a plu un peu en juillet, les rendements vont être quand même pas trop mal. En revanche, plus haut, ce ne furent que de brefs orages, très localisés. Nicolas Fermont, directeur technique de la cave Jaillance, confirme « On voit une nette différence entre le bas de la vallée et la montagne. » À Barsac, Jean-Denis Maillefaux constate, fataliste, « Question de rendement, ça va être dur. Il n'a pas plu ici depuis 3 mois. Sans compter le feu, qui a ravagé la commune en juillet dernier et l'a obligé à évacuer son domaine, et dont les conséquences se font largement sentir psychologiquement. Heureusement que ma maison est dos à la forêt, car rien que d'y penser, ça me met encore les larmes aux yeux. »
Le viticulteur tient cependant à prévenir les inquiets qu'il n'y aura pas de risque d'odeur de brûlé dans sa cuvée 2026. « J'ai goûté mes raisins, il n'y a rien du tout. Et le syndicat a mis en place un protocole solide pour qu'il n'y en ait pas dans nos vins. Ainsi, avec l'aide de Groupama et du Crédit Agricole, le syndicat a fait des analyses poussées pour identifier les rangs de vignes susceptibles d'avoir été touchés. On a isolé la récolte des jus de ces rangs. On parle d'une centaine de mètres en bord de parcelle, précise Fabien Lombard. Nicolas Fermont, de Jaillance, complète. Chez nous, ça représente même pas 8% du volume. On va les analyser pour détecter les précurseurs susceptibles de libérer le goût de brûler à la vinification. Si besoin, ces jus seront écartés d'une cuvée qui s'annonce fameuse selon lui. Les viticulteurs ont été agréablement surpris. On a une belle fraîcheur d'arôme. Le président du syndicat de la Clairette renchérit. C'est très joli pour le muscat. Après, on craint un peu la pluie pour la Clairette. Le millésime 2026 s'annonce de très grande qualité. Reste plus qu'à le mettre en bouteille et surtout à le vendre. Et c'est là que les choses se corsent. Notons que, selon les chiffres du syndicat de la Clairette, entre 2018 et 2024, l'appellation a perdu un sixième de sa surface. Si Fabien Lombard refuse de tirer encore des conclusions pour 2026, pointant que les fins d'année sont traditionnellement favorables, tous les producteurs rencontrés ne cachent pas leur désarroi face au désamour des consommateurs pour la Clairette et les vins en général. L'ambiance est morose économiquement, ça n'aide pas. J'ai peur pour l'avenir de l'agriculture dans la vallée, soupire Franck Monge. L'ancien maire de Vercheny ne désespère cependant pas de transmettre son groupement agricole et ses belles caves à Rémi Granon. Une aventure qui a démarré il y a juste 40 ans avec son associé et père de Rémi, Pascal Granon. C'est un article de Blandine Flipeau.
Quel avenir pour les urgences de Cré? Le service a de nouveau interrompu son activité du 18 au 19 août. Le centre hospitalier de Cré a subi une nouvelle fermeture de son service des urgences du 18 août à 16h au 19 août à 9h. C'est le 8e épisode de fermeture cet été, faute de médecins urgentistes disponibles pour assurer la continuité du service. Une situation similaire avait déjà eu lieu au moment des fêtes de fin d'année. La France connaît une pénurie de médecins urgentistes. On ne peut pas résoudre à notre échelle une problématique nationale, déplore Marie-Lise Moulet, directrice déléguée de l'établissement. Malgré l'organisation en fédération interhospitalière qui permet une rotation des médecins entre les urgences de Cré, Die et Valence, il manque des effectifs. En période de congé, les trous dans le planning sont quasi impossibles à remplir. Nous cherchons avec le centre hospitalier de Valence à construire des parcours qui permettent d'attirer et fidéliser des urgentistes. D'ici la fin de l'année, nous espérons recruter. Dès septembre, nous devrions avoir plus de temps médical pour les urgences de Cré dans le cadre de la fédération interhospitalière. Au moment où je vous parle, j'espère que nous tournons la page de ces difficultés, déclare la directrice. Athanaïs Coudry, maire de Cré et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, reconnaît que ces fermetures des urgences ont été un sujet très préoccupant cet été. J'ai vu la directrice de l'hôpital se démener pour trouver des solutions. Elle a pu éviter des fermetures, notamment fin juin, souligne la maire, qui estime aussi que la situation résulte de choix nationaux. Donc les solutions pour enrayer cette pénurie doivent être apportées au niveau national. De notre côté, nous avons réussi un travail à faire sur l'attractivité du territoire pour ces nouveaux médecins, poursuit-elle. Elle assure que le sujet des urgences sera à l'ordre du jour du prochain conseil de surveillance. Je viens d'échanger avec la directrice départementale de l'Agence régionale de santé, l'ARS. La présence du service des urgences sacrées est une évidence pour l'ARS. Ce service n'est en aucun cas menacé, précise-t-elle. Reste, toutefois, à trouver les médecins qui assureront sa continuité. Un article signé Sophie Sabot.
Nouveau débat autour d'un projet de poulailler. À Chabriant, une pétition a été lancée par des riverains qui rejettent la construction d'un poulailler de près de 40 000 poulets. Ces derniers mois, les pétitions en ligne contre les poulaillers industriels se multiplient. L'une d'elles, publiée le 5 août dernier sur le site change.org, concerne un projet à Chabriant. Le lanceur de pétition est identifié sous le nom « Collectif des habitants de Chabriant ». Derrière ce collectif, une vingtaine de riverains qui refusent de voir s'installer près de chez eux un bâtiment de 1900 mètres carrés prévu pour accueillir près de 40 000 poulets. Le projet est porté par un jeune agriculteur de 22 ans, Thomas Almoric. La demande de permis de construire a été déposée le 24 juillet dernier. Le 4 août, les riverains du collectif ont été reçus par le maire et ses adjoints pour faire part de leur opposition à cette construction. Nous avons été informés du projet après le dépôt de la demande de permis de construire. Nous aurions aimé qu'on nous en parle en amont, déplorent trois riveraines. Chacune souhaite rester anonyme et s'exprime au nom du collectif. Mais l'une d'entre elles reconnaît que les raisons pour chacun de s'engager contre ces projets sont diverses.
Pour certains, c'est un souci immobilier. Ils se sont endettés sur 25 ans pour payer leur maison et un projet comme ça peut faire dégringoler la valeur de leurs biens. On sait aussi que, malgré les arguments pour nous rassurer, il y aura des odeurs, des mouches, etc. On le voit bien avec d'autres poulaillers dans les villages voisins, explique cette riveraine. Elle s'inquiète aussi des conséquences de ce projet sur la pollution des sols ou du ruisseau Saint-Pierre à proximité. Sans oublier la question de la ressource en eau sur Chabriant, qui, selon elle, est pour l'instant insuffisante pour répondre aux besoins d'un tel projet. Une autre riveraine, qui a mis en ligne la pétition, insiste. Le collectif est constitué d'habitants qui vivent ici depuis longtemps. Ce n'est pas un débat entre néo-ruraux, écologistes et agriculteurs. On ne souhaite pas voir s'implanter ce type de projet. On veut que l'élevage français se développe de manière plus respectueuse, avec du plein air, de l'herbe, que les animaux puissent se mouvoir, qu'ils soient moins nombreux, mais on a conscience que c'est difficile pour les agriculteurs. Elle estime également que pour l'instant, les habitants de Chabriant ne disposent d'aucune information, si ce n'est la taille du bâtiment mentionné dans l'avis du dépôt de permis de construire, affiché en mairie le 27 juillet dernier. Le maire de Chabriant nous a annoncé en réunion le 4 août que le projet concerne un élevage de 39 999 poulets, précise l'une des riveraines. En dessous de 40 000 poulets, l'éleveur dispose d'un régime simplifié de demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Si la demande de permis est acceptée, l'exploitant doit respecter les prescriptions réglementaires édictées par l'arrêt ministériel propre au secteur d'activité concerné, précise sur son site le ministère de la Transition écologique.
Aujourd'hui, c'est clairement cet effectif de près de 40 000 poulets qui effraie les riverains. Un chiffre qui se situe dans la taille moyenne des élevages avicoles en France selon l'ENVOL, Association interprofessionnelle de la volaille de chair. L'association rappelle également qu'un poulet sur deux consommé en France en 2025 a été importé, principalement en provenance de Pologne, Belgique et des Pays-Bas, mais aussi d'Ukraine, du Brésil ou de Thaïlande. De son côté, Thomas Almoric explique que son projet est de produire des poulets de chair destinés à l'entreprise Bernard Royal Dauphiné à Grane. Il compte aussi travailler avec la coopérative Val-Soleil, qui lui fournira pour ses volailles un aliment fabriqué à Cray dans l'usine Marius, ex-UCAB. Amandine Steiner, responsable marketing et communication de Bernard Royal Dauphiné, confirme que la demande en poulet continue de croître. « Nous avons besoin de développer de nouveaux bâtiments volailles en Drôme et dans les départements limitrophes, à la fois en conventionnel, en label rouge plein air et pour notre filière spécifique poulet de mon enfance », précise-t-elle. Elle confirme également le partenariat avec Val-Soleil pour produire à Cray un aliment élaboré à partir de céréales régionales et de soja issus de filières non déforestées.
Mais ces arguments pourraient ne pas être suffisants face à la détermination des riverains. Le 6 août, ils ont adressé un courrier au maire. Nous refusons qu'à Chabriant devienne le lieu d'implantation d'un modèle d'élevage industriel dont les impacts seraient supportés par les habitants pendant des décennies, affirme-t-il dans cette lettre, et de s'adresser aux maires et aux élus. Nous vous demandons de prendre clairement position contre ce projet et de mettre en œuvre tous les moyens dont vous disposez pour en obtenir l'abandon. Notre collectif est déterminé à poursuivre toutes les actions citoyennes et les démarches administratives nécessaires afin que ce projet n'aboutisse pas. Cyril Vallon, maire de Chabriant, n'a pour l'instant pas répondu aux sollicitations du Crétois. Selon les membres du collectif, une réunion publique est programmée début septembre, en présence des élus, des riverains et du jeune agriculteur. Une information que confirme ce dernier. Le débat s'annonce épineux entre rejet du modèle agro-industriel d'un côté et conviction qu'il faut préserver la souveraineté alimentaire de la France de l'autre. C'est un article de Sophie Sabot et pour votre information, la consommation moyenne de poulet en France par habitant en 2025 est de 25,6 kg, soit l'équivalent de 17 poulets de 1,5 kg.
Vallée de la Gervanne, théâtre.on.demande 2, en tournée en Gervanne. 6 soirées d'exception ont ponctué les chaleurs drômoises dans les communes de la Vallée de la Gervanne, de Beaufort à Mirabel et Blacon et à Suse, ainsi qu'à Cré, du 11 au 16 août, avec la venue de la compagnie 7 ans plus tard, déjà invitée l'an dernier dans le cadre de son festival par Agriculture en Gervancy, sur le thème des couples en crise. Damien Chardonnet d'Armaillac et la compagnie s'attachent à une nouvelle thématique centrée autour de l'adolescence et de ses émotions intenses. Les 4 interprètes de la pièce peuvent jouer tous les rôles, car le public, impliqué dans le déroulement du spectacle, tire au sort les acteurs ainsi que les scènes, dont 8 sont issues du répertoire constitué d'auteurs classiques et contemporains. Le jeu subtil est nourri par des comédiens de grand talent que nous allons citer pour leur rendre hommage. Brunhilde Attenel, Lily Moreau, Noah Hellman et Aubien Hernandez. Leur vitalité, leur enthousiasme et leur énergie emportent l'adhésion des spectateurs au-delà de certains textes tragiques et douloureux. Un public varié de tout âge s'est pressé pour applaudir leur performance au jardin public de Beaufort, dans la salle polyvalente de Mirabel et Blacon, dans un hangar du domaine Pélong et dans les jardins de la Barbeillère à Cré. Merci à la puissance de jeu des acteurs, à leur générosité et leur engagement. Merci à la mise en scène ingénieuse, inventive et ludique. Merci au fonds de dotation Bûcher-Ponsois qui a rendu possible la venue de la compagnie. C'est un article de Marie Moreau d'Escoing.
Voici venu le temps de la découverte musicale selon la sélection d'Olivier Chaplotte. Cette fois-ci, il s'agit du groupe 30 secondes pour Mars, créé en 1998 par Jared Leto. C'est un acteur reconnu et également auteur, compositeur, guitariste et chanteur. Et il crée le groupe de rock alternatif avec son frère Janon à la batterie. Et aujourd'hui, nous vous passons l'album A Beautiful Lie, créé en 2005, avec la chanson Beautiful Lie. 30 secondes pour Mars, voilà, à écouter. Lançons le jeu.
Et voici le temps des annonces avec Thierry, je te laisse la parole.
Merci. Avec le retour de la pluie vient le temps des forums des associations. Et dans tous nos villages et villes, cela aura lieu le vendredi 4 septembre et le samedi 5 septembre. Alors renseignez-vous dans votre journal favori, le Crétois. Et puis, à Beaufort-sur-Gervanne, ce sont les 10 ans de l'épicerie associative. Et l'épicerie a l'honneur de vous inviter pour ces 10 ans. Alors, il y a plusieurs rendez-vous. Venez visiter, visionner, déguster, célébrer du 26 au 29 août à Beaufort-sur-Gervanne. D'autres informations, à la Baume Cornillane, il y a un spectacle de cirque, c'est le dimanche 23 août à 18h au restaurant associatif La Pangée, spectacle « On se connaît, non ?» ce duo acrobatique et aérien avec une bulle d'intimité. C'est une participation libre. Ensuite, je tourne les pages et j'arrive à Bourdeaux. Il y a du cinéma en plein air le mardi 25 août à 21h30 au Parc de la Recluse. Cinéma en plein air avec un film « Un champ de fraises » d'Alain Raoust. À Comps, il y a un concert à l'église dimanche 23 août à 18h. C'est une promenade musicale de l'Ukraine à l'Irlande avec deux musiciens talentueux, un violoncelliste et un musicien multi-instrumentiste et compositeur. À Crupy aussi un concert le dimanche 23 août à 18h, la chapelle Saint-Jean, avec Tricotin Swing, trio à cordes de répertoire réaliste. Et puis les forums des associations, je vous en ai déjà parlé, donc je continue à tourner les pages pour vous informer qu'à Cray, il y a des bourses pour le permis de conduire. La ville de Cray et la CCVD, la communauté de communes, proposent chacune des aides financières pour les jeunes. C'est pour les jeunes de 15 à 25 ans de leur territoire. En échange, les jeunes effectueront un certain nombre d'heures de bénévolat auprès d'une association ou d'une collectivité. Alors, les conditions d'attribution, la contrepartie et le montant de l'aide varient selon les collectivités. Vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires et télécharger les dossiers de candidature sur les sites respectifs de la mairie de Cray et ou de la CCVD. Et puis, comme autre annonce, mon journal est en train de se plier, donc je vous annonce, si ça y est, que le festival Futura s'installe à Cray pour 3 jours. C'est du 25 au 28 août, 20 concerts acousmatiques à l'espace Soubéran. Le programme complet est à retrouver sur festivalfutura.fr et c'est la 34e édition incontournable dans le milieu international de la musique acousmatique. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'allais oublier, mais non, je ne vais pas l'oublier. Nathalie Morazin est à Gigor. C'est le vendredi 28 août à 20h à l'église de Gigor et Lonzeron. On la connaît déjà tous et toutes. C'est une pianiste, une chanteuse, une compositrice et une arrangeuse. Et c'est un terme musical bien recherché par tous ceux sur qui on a la colle, dont Nathalie, c'est bien celui du minimaliste. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, parce que ce n'était pas très clair, mais précipitez-vous parce que c'est fantastique. Nathalie Morazin à Gigor, le vendredi 28 août à l'église Saint-Pierre. Voilà. Et puis, il y a des rencontres musicales entre l'Ardèche et Alep, en passant par Cray. Alors, c'est une tournée Drôme-Ardèche. Ça a commencé le 21 août, mais c'est tous les jours jusqu'au 30 août. Et Marie Lahotte et Fawaz Bakker se retrouvent sur les chemins de l'Ardèche et de la Drôme pour une tournée de 10 rendez-vous avec les Chemins de Syrie, un projet musical où la voix, le oud, la poésie et l'improvisation se rencontrent. Ce sont des concerts à prix libre et vous pouvez avoir plus d'informations aussi sur rimala.music@gmail.com, mais bien évidemment sur le Crétois. Une exposition « Foisonnement », le Cercle des peintres de Poët-Laval propose l'exposition « Foisonnement » jusqu'au dimanche 30 août à l'église Saint-Michel. 5 artistes à découvrir à l'exposition « Foisonnement ». Il y a du cirque, c'est un duo acrobatique et aérien à La Pangée, à la Baume-Cornillane. C'est le dimanche 23 août à 18h par la compagnie « Les Chœurs des Corps ». Cinéma. Ah, tous dehors. On peut aller à la Gare des Ramières, qui fait son cinéma le mardi 25 août à 21h, avec la projection du film « Tous dehors » d'Anne Jokum. Ça dure 57 minutes, c'est une immersion dans le monde de l'enfance. Et c'est gratuit. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans tout ça? Ou est-ce que je vous ai dit toutes les annonces? Eh bien, on me fait signe que je n'ai rien oublié pour une fois. Et donc, voilà. Pour les annonces.
Eh bien, voilà, même pour l'actualité de cette semaine avec la lecture du Crétois qui est parue le 21 août 2026. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité, bien sûr, en courant vite chez votre marchand de journaux pour l'acheter ou bien en vous abonnant sur le-crétois.fr. Cette semaine, dans le studio, il y avait pour la lecture Thierry, Christine, Doris, Martine et pour quelques petits articles, moi-même Sarah, qui a fait la technique également. On vous dit à la semaine prochaine, on vous souhaite une très bonne semaine qui, pour le moment, a démarré avec de la pluie. On espère qu'il y en aura encore un peu. À bientôt, au revoir.
Le Crétois, c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
Et pour cette semaine.
C'est fini.